Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, tout un monde est au festival Étonnants Voyageurs qui rassemble chaque année ceux qui ont le goût du monde et qui cherchent les mots pour le dire. Un festival qui fut doté au départ de parrains prestigieux et d'une marraine hors norme qui reste l'inspiratrice de nombreux voyageurs, qu'ils soient écrivains ou non, j'ai nommé la grande Ella Maillard. Aujourd'hui, dans Tout un monde, lire Ella et partir, nous sommes en compagnie d'Olivier Weber qui est souvent parti sur ses traces. Mais tout de suite, la voix d'Ella, nous sommes en mars 1952, elle a 46 ans.
Ella Maillard, dans ce récent voyage au Népal, vous n'étiez pas une nouvelle venue, en tout cas en Asie.
Non, je dois dire que je m'y suis déjà rendue 7 fois. J'étais au Caucase, au Turkestan russe, au Turkestan chinois. J'étais 2 fois à travers la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. En 1945, j'étais aussi Kim et dans le sud du Tibet jusqu'à Faridzang. Et j'ai passé toute la guerre dans le sud de l'Inde.
Oui, et généralement, c'était des voyages assez longs dans lesquels vous empruntiez à peu près tous les moyens de locomotion, et depuis le chameau jusqu'à l'essentiel qui est la marche à pied.
Oui, en effet. Et même le yak.
Et même le yak au Tibet. Eh bien, cette fois-ci, vous avez encore, je crois, employé un autre moyen de transport.
Eh bien, oui, on trouve passablement de bicyclettes au Népal. J'ai réussi à louer une et à me promener dans la vallée de Katmandou en bicyclette.
Oui, pour la vallée de Katmandou. Pour le reste, vous avez repris votre pas de montagnard.
Ella Maillard, son œil bleu, son indépendance farouche, sa détermination à tracer sa route, notamment à travers cette haute Asie où tant de voyageurs partiront sur ses traces. Un parcours étalé sur plus d'un demi-siècle, le 20e, d'où est issue une œuvre phare de quelques 10 livres cultes comme Oasis interdite ou La voie cruelle. Un parcours qui croise et que croise le vôtre, Olivier Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, on vous doit de nombreux livres et articles sur cette partie du monde, notamment une fameuse biographie de Massoud. Et vous avez longtemps cheminé sur les traces d'Ella, au point de lui consacrer une bio. Je suis de nulle part. Une bio en mouvement, elle vient de reparaître en petite bibliothèque Payot. Et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à cette grande Ella qui est disparue il y a tout juste 20 ans et qui est chère à votre cœur et au nôtre.
Oui, une sacrée aventurière. D'abord, c'est une femme. Imaginez une femme qui se rend en Asie centrale dans les années 20 et les années 30, donc qui traverse la route de la soie, qui se rend en Afghanistan, où vous l'aviez évoqué aussi, qui était, on l'entend à travers son interview, qui était dans les ashrams, donc les centres de méditation du sud de l'Inde pendant la guerre. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas le risque, en fait, mais qui voulait simplement aller voir et qui avait voulu surtout fuir la bourgeoisie genevoise, donc, puisqu'elle était suisse. Elle a même été championne, ça peut faire rire d'ailleurs, championne aux Jeux Olympiques, désignée par son pays pour participer comme candidate aux épreuves de voile. Donc voilà, la marine à voile suisse existe, je peux le confirmer, Ella peut le confirmer. Elle était très bonne skieuse également. Et puis voilà, maman elle dit, je largue les amarres, je m'en vais, et elle est partie, elle a pris la route, et je trouve ça très beau parce que elle-même a inspiré. D'abord, vous le disiez, elle est venue ici, Étonnants Voyageurs. Moi, je ne l'ai pas connue, j'étais trop jeune à l'époque. D'ailleurs, c'est pas plus mal de ne pas connaître les personnes dont on écrit la biographie. On garde une distance, en même temps une fascination, un respect, une admiration que je vois également dans les yeux de jeunes voyageurs qui s'en vont au fin fond de l'Asie centrale. Vous savez, c'est un petit peu une contrée ou des contrées nouvellement mythiques que ces pays en ce temps que sont le Tadjikistan, le Kazakhstan, surtout le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan sont des pays magnifiques. Et bon, quelquefois, il y a des problèmes ethniques ou religieux de vallée en vallée. Mais Ella Maillard avait déjà repéré tout ça. Et ces jeunes voyageurs d'aujourd'hui, donc des années 2000 et quelques, prennent dans leur bagage quelques guides en anglais, mais aussi les livres d'El Amaya. Donc voilà, je pense que la tradition se perpétue.
Alors le parcours que vous écrivez autour d'Ella, Je suis de nulle part, on peut le croiser avec celui qu'elle a elle-même écrit, Croisières et caravanes, puisqu'elle a écrit sa bio. Et j'ai eu la grande surprise de voir qu'elle l'avait écrite en anglais. Alors qu'elle disait... cette même bio, qu'elle parlait pas très bien anglais. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle a écrit sa propre bio en anglais ?
Elle l'a beaucoup appris sur le terrain, donc avec quelques accents d'ailleurs. Elle a aussi un petit peu appris le russe. Quelqu'un qui parlait aussi l'allemand, donc qui avait des facilités en fait pour apprendre les langues. Et puis bon, évidemment, c'est un livre qui a été corrigé par les éditeurs pour la partie anglophone. Et elle a partager un moment sa vie, enfin on va dire plutôt son parcours, son chemin avec Peter Fleming, qui était un aventurier également, grand reporter, écrivain britannique, pour aller donc au fin fond de la Chine. C'était pas évident, hein, faut vraiment se rappeler qu'on est entre deux guerres. C'était justement la Chine des seigneurs de la guerre. Donc il fallait quelquefois franchir des lignes de front pour aller de province en province. Et donc elle va vivre sous la tente, même d'ailleurs, avec Peter Fleming, cette belle aventure.
Qui n'est pas son amoureux d'ailleurs.
Hein. Non, ils vont se séparer très vite.
Ils s'agacent même. Hein.
Ils s'agacent absolument. Ça se sent également. Non seulement dans le livre d'Ella Maillard, mais encore plus peut-être dans le livre de Peter Fleming. Oui, effectivement.
Courrier de Tartarie.
Il faut dire qu'elle a un sacré caractère, bougonne, etc. Et puis, il faut imaginer encore une fois une femme qui s'aventure dans ces steppes.
Alors justement, il y a un côté, vous disiez, elle a appris l'anglais, elle a appris le russe, etc. Il y a une volonté incroyable chez cette femme et il y a constamment un auto-apprentissage. Elle raconte, par exemple, qu'elle ne sait pas monter à cheval.
Elle
va du jour au lendemain faire 10 heures donc à dos de cheval et de divers autres équidés, parce qu'elle le veut. Quoi.
Elle le veut. C'est une femme d'une grande volonté, en plus qu'elle a quand même des capacités physiques puisqu'elle était sportive, mais ça va lui servir aussi pour voir ce qu'on appelait les baspachis, les rebelles du Turkestan, ce qu'on appelait le Turkestan à l'époque. C'est justement les anciennes républiques musulmanes de l'ex-URSS où il y avait des rebelles donc contre l'armée rouge, un petit peu le prolongement on va dire presque de l'armée blanche, mais plutôt côté turcophone. Et puis elle va monter à chameau d'ailleurs quand elle va s'aventurer dans ces steppes. À un moment elle va se perdre et elle a perdu ses bottes et heureusement qu'elle a croisé des caravaniers. On est en plein hiver, donc là il fait extrêmement froid parce qu'elle allait mourir dans les deux jours qui venaient. Et donc ce sont des caravaniers mâles, des hommes qui sauvent cette femme totalement isolée comme ça au fin fond de la steppe. C'est du désert, hein, c'est du désert blanc l'hiver, très souvent neigeux. Voilà, c'était ça le courage d'Ella Maillard. C'est pour ça que je voulais l'appeler, enfin le titre est donc Je suis nulle part.
Et partir. Nous sommes au festival Étonnant Voyageur sur les traces de la grande Ella Maillard en compagnie d'Olivier Weber qui a fait de très nombreux voyages justement sur ses traces et qui lui a consacré une biographie qui reparaît chez Payot, Je suis de nulle part, et qui a lui-même évidemment une perception de cette Asie centrale à la fois qui rejoint celle d'Ella Maillard et qui est toute différente puisque ce pays a profondément changé.
Oui, beaucoup. Et évidemment, il y a en même temps toujours cet esprit, sans être naïf, mais en restant optimiste, on va dire, cet esprit qu'on appelle l'esprit de la route de la soie. Il y a toujours la tradition d'accueil. Nous sommes dans un pays en guerre, évidemment, pour plein de raisons, politiques et religieuses en particulier, mais en même temps, il y a toujours une tradition d'accueil. Je pense que cette tradition d'accueil, elle l'a ressentie, elle, Ella Maillard, dans les années 20 et 30, en tant que femme. Elle est allée jusqu'à Kandahar, elle a vu les Bouddhas, les fameux Bouddhas de Bamiyan, etc. En plus, c'est assez drôle, parce qu'elle est partie...
Elle les a vus entiers.
Elle les a vus entiers, absolument. Le grand Bouddha de 53 mètres et le petit de 35 mètres, qui sont la première rencontre entre l'Orient bouddhique, puisqu'on n'avait pas le droit de représenter Bouddha sous des traits humains, et de l'Occident hellénistique, grâce aux descendants, on va dire, des sculpteurs d'Alexandre le Grand.
Et donc, alors, je vous interromps, Olivier, oui, parce que, justement, elle dit la chose suivante à propos des Bouddhas de Bamiyan. Elle dit « Ces Bouddhas si souvent abîmés par des fanatiques musulmans ». Ça veut dire que déjà, ils étaient l'objet d'une haine.
Oui, absolument. Il y avait déjà ce danger d'iconoclasme, de détruire l'image et de détruire ce qui était considéré comme une idole, par, des idoles par certains fanatiques. Et, mais même les talibans voulaient respecter cela. En fait, c'est plus une destruction due aux militants d'Al-Qaïda et des forces pakistanaises que du fait des talibans. Moi, il me l'avait dit quand je suis allé là-bas faire un livre qui s'appelle « Le faucon afghan ». Il m'avait dit « On ne touchera pas ce patrimoine, non seulement de l'Afghanistan, mais de l'humanité ». Et pour revenir à Ilham Ayar, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a parcouru cette... route, en fait, de la soie et la route d'Afghanistan, tenez-vous bien, dans une Ford V8 avec 8 cylindres, donc, qui appartenait à l'ancien roi d'Albanie, le roi Zog. Et elle part donc vers Kaboul, et d'abord vers Téhéran, avec une amie qui est une écrivaine suisse assez connue, qui s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Et elle, Ilham Ayar, essaye de sauver son amie d'un gros problème qui est la drogue.
À fond dans les drogues dures.
Totalement dans les drogues. Elle s'est dit, bon, on va partir, on va faire l'Albanie, on va faire la Turquie, l'Asie mineure, la Perse, l'Iran, etc. Je vais la sauver. Et patatras, malheureusement, Anne-Marie Schwarzenbach, qui a 30 ans et quelques, rentre dans une pharmacie à Téhéran et prend de la codéine. Enfin, on pouvait trouver à l'époque, et encore aujourd'hui, tous les dérivés de la morphine et de l'opium, donc, y compris de l'héroïne. Et
oui, d'ailleurs, vous décrivez dans vos propres livres les chants de pavots.
Les chants de pavots, absolument. Sont partout. Et c'est très triste parce qu'elle va en faire un livre qui s'appelle La Voix Cruelle. La Voix Cruelle, la Voix
Magnifique
le chemin,
livre.
Parce qu'elle n'arrive pas à sauver Anne-Marie. Elle se sépare, elle s'engueule, etc. Et c'est là donc où Ilham Ayar finit la route au fin fond de l'Inde parce que l'Europe, à ce moment-là, rentre en guerre et elle préfère, elle, et Ilham Ayar vivre dans des ashrams. Anne-Marie Schwarzenbach revient en Suisse. C'est une Suisse allemande. Elle devient militante anti-nazie. Elle est l'amie des enfants de Thomas Mann, Klaus et Erika Mann, qui sont comme elle des homosexuels. Et donc, elle va faire une chute la plus idiote qui puisse exister, une chute en pleine guerre en 1942, à vélo. Elle est morte à 34 ans. Et c'est quelqu'un vraiment qui avait ça, Anne-Marie Schwarzenbach, dans le cœur, le militantisme, la dénonciation des totalitarismes en Europe. Donc, les deux amies se séparent.
Elles sont hantées, d'ailleurs, par l'état de l'Europe. Toute la voix cruelle est semée d'une sorte de déploration sur l'état de l'Europe qu'elle fuit.
Tout à fait. Qu'elle fuit toutes les deux, sauf que l'une va revenir pour y mourir malheureusement. Et Anne-Marie Schwarzenbach donc reste cette grande écrivaine, peut-être d'ailleurs davantage qu'Ilham Ayar. Ilham Ayar, c'est l'aventurière. Elle écrit bien, La Voix Cruelle, c'est magnifique, mais c'est souvent des comptes rendus de voyage. Et en même temps, il y a une âme dans ses livres à Ilham Ayar, il y a une sorte de focale qui fait qu'elle passe dans le cœur des hommes et des femmes qu'elle rencontre. Et ça, c'est très beau. Et c'est pour ça que ça n'a pas vieilli. La route elle-même a très peu vieilli. Quand on va au fin fond de l'Afghanistan ou de l'Asie centrale ou même de la Chine, de Xinjiang, l'équivalent du Tibet musulman chinois, entre guillemets, ça n'a pas tellement changé par rapport aux années 20, aux années 30. Et il y a toujours cet esprit de rencontre. Et donc, il faut lire Ilham Ayar parce que voilà, ce sont des guides du routard.
Oui. Alors justement, elle ne se ressent pas comme... une écrivaine. Elle a une extraordinaire modestie à ce sujet. Ça transparaît dans son récit « Croisières et caravanes ». Et on a retrouvé pour vous un document d'archives où, justement, elle parle du fait qu'elle ne se sent pas véritablement écrivain. Alors, c'est une interview qu'elle a donnée à la fin de sa vie, à Jacques Chancel. Et elle y évoque les débuts de sa carrière d'écrivaine, encouragée par celui qui était le plus fameux navigateur de cette époque, de l'entre-deux-guerres, de Vigny.
Mon amitié avec Gerbaud, Alain Gerbaud. Et un jour, il me fait déjeuner avec son éditeur, qui était Charles Fasquelle. Alain me dit, mais écoute, tu reviens de Moscou, raconte-moi un peu. Et puis je lui réponds, mais je t'ai déjà tout raconté. Alors Fasquelle me dit, vous avez écrit quelque chose ? Je dis, oui, j'ai écrit La traversée du Caucase à pied pour un magazine américain qui me l'a refusé en disant que je parlais pas assez de moi-même. Et puis il me dit, j'aimerais que vous m'écriviez votre vie de tous les jours à Moscou. Et je lui réponds, je sais pas écrire. J'ai horreur d'écrire. Oh, il me dit, quelle chance. Je suis assaillie de gens qui viennent chez moi en me disant qu'ils sont des écrivains. Donc c'est grâce à Gerbaud que je rencontre Fasquelle. C'est grâce à Fasquelle, avec l'argent de la jeunesse russe, que je pars pour Turkestan solo, qui est mon voyage le plus fantastique, J'étais 6 mois au Turkestan russe sans visa, ne pouvant jamais aller dans un hôtel campant, dormant n'importe où avec les Russes. Et moi, j'aime l'imprévu et la difficulté. Et je suis partie avec $150 pour Moscou. Eh bien, je suis arrivée avec $150, changée au marché noir grâce aux journalistes américains qui étaient sur place. Et j'ai vécu 6 mois. Et, ah, alors ça, c'est une chance de nouveau fantastique. C'est parmi la jeunesse russe. J'ai dit à mon éditeur à Lausanne, je ne permets l'édition que si Michel Tatu me fait une préface. Parce que Michel Tatu explique pourquoi mon livre est complètement superficiel. Interdiction de poser des questions sur la vie générale et la politique, j'aurais été expulsée tout de suite. Alors, avec la préface de Michel Tatu, que je remercie du fond du cœur, publiquement devant je ne sais pas combien d'auditeurs, à cause de lui, j'ai permis qu'on réimprime ce petit livre, La jeunesse russe, qui vaut 3 fois rien. Je me promène et je me joins à quelques étudiants pour traverser le Caucase à pied. Mon but en voyageant, je voulais aller vers une tribu heureuse, à défaut de la Polynésie, parce que Gerbeau est revenu en disant c'est fichu, entre les manieurs d'argent et les missionnaires, ils ont tout fichu en l'air. Donc le rêve polynésien était fini. Je cherchais une tribu heureuse, pas touchée par notre civilisation industrielle et notre progrès avec un P majuscule. Ce progrès qui nous amène vers une catastrophe où les forêts meurent et tous les animaux meurent et les hommes meurent. Dans mon imbécilité, je croyais qu'en voyant une tribu heureuse, je comprendrais pourquoi l'Europe avait déraillé dans cette vie. J'ai pas besoin de faire des dessins sur la vie d'aujourd'hui. Alors, je dois dire, ma vie est d'un égoïsme total. Je n'ai jamais fait de bien à personne, à part ma vieille bicyclette qui va être envoyée pour les élèves africains qui vont à l'école. Parce que j'étais pleine de mes problèmes personnels. Mais je voulais absolument trouver le bonheur et savoir pourquoi on vit.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Aujourd'hui, tout un monde au Festival Étonnant Voyageur, dont coup de chapeau à Ella Maillard, disparue il y a 20 ans. Ella Maillard, à qui d'ailleurs le festival rend hommage demain avec vous, Olivier Weber. Trouver le bonheur et savoir pourquoi on vit. Vaste quête, elle est portée dans sa modestie qu'on entend. Elle est portée par ça, ça va l'amener aussi à des expériences spirituelles.
Oui, absolument. En particulier au fin fond de l'Inde, je crois que là, elle a voulu donner un sens à sa vie. D'abord, elle a voulu, comme disait le poète Éluard, donner à voir. Elle a donné à voir par ses livres. Elle reste modeste, mais en même temps, elle a contribué au départ à un élan d'impulsion à des milliers de voyageurs. Ses livres se vendent encore très bien. Et même, tenez, un autre habitué de Étonnant Voyageur, Nicolas Bouvier. C'est Nicolas Bouvier qui le raconte. Nicolas Bouvier va voir Ella Maillard, sa compatriote, et lui demande conseil pour partir. Ça va faire l'usage du monde. Elle lui dit, mais évidemment, partez. Elle lui donne même des cartes, et puis il part avec son ami cartographe Thierry, donc vers l'Afghanistan. Donc il refait une partie de la route de la soie de Marco Polo, mais aussi bien sûr de Rumi, donc le grand poète fondateur du mouvement des derviches tourneurs, surtout grand poète persan, et puis bien sûr la route d'Ella Maillard. Donc voilà. Et en même temps, ça n'a pas tellement changé quand vous regardez le passage de la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Vous faites braquer par les douaniers, ils vous demandent du barchiche, etc. Il faut payer en dollars, etc. Bah, sinon, on passe 2 mois en prison. Et Ella Maillard raconte pratiquement la même chose sur cette petite frontière entre Mashhad et puis Herat, la grande ville de l'ouest de l'Afghanistan, qui est une ancienne Florence, on va dire, de l'Asie centrale, au temps du Moyen-Âge européen. Et voilà, donc tout a changé et rien n'a changé. Et puis il reste toujours l'esprit. Je pourrais parler également des maisons de thé, ce qu'on appelle les Chairana en Afghanistan. Ella Maillard les décrit. Bah, aujourd'hui, si vous y allez, c'est à peu près, en dehors des zones de guerre, évidemment, à peu près la même ambiance. On mange des broches brochette, on boit du thé, puis on discute voilà, pendant des heures sur ce qui se passe dans la vallée en bas, sur ce qui va se passer avec les chèvres et les moutons demain matin dans la transhumance, etc. Donc voilà, l'esprit de la route de la soie existe toujours.
Et elle parle de ses salutations, peut-être vous les avez connues, j'imagine que oui, je les trouve très belles, qui montrent que aussi l'Afghanistan est une terre et reste une terre très accueillante malgré les drames actuels. Quand on se rencontre, on se dit Mandan Bashi, ne sois pas fatigué, et on est censé répondre Zenda Bashi, sois vivant.
Voilà. C'est magnifique. Reste en vie, Zenda Bashi, ouais, c'est magnifique, absolument. Et voilà, puis en même temps, comment va ton grand-père, comment va ta grand-mère, etc. Bon, voilà, ça peut durer entre 2 minutes
en
et une demi-heure. Donc c'est bien parce qu'on boit le thé en même temps. Alors certains fument de l'opium, pas moi. Enfin, et là, je ne sais pas d'ailleurs, sa compagne, oui. Mais voilà, donc c'est les fameuses traditions d'accueil dans les maisons de thé, mais aussi chez l'hôte afghan et de la région également.
Alors chez Ella Maïa, donc il y a une quête spirituelle et il y a quelque chose d'assez mystérieux sur sa vie personnelle, puisqu'elle le dit elle-même, ni élan du cœur, ni désir ardent ne vivent en moi. Donc on a l'impression que c'est une femme que l'amour humain n'a pas vraiment traversé, ne concernait pas. Vous avez une idée de
la manière dont elle fonctionnait ? Elle n'a pas eu le temps, ou elle n'a pas voulu, ou se donner les moyens, peu importe, après ce sont les hasards de la vie, rencontrer un amour, un grand amour, ou l'amour de sa vie. Un homme ou une femme, et c'est peut-être pour cela, enfin c'est pour cela même, on peut l'affirmer, qu'elle a voulu repartir sans cesse, une sorte de mouvement perpétuel qui fait qu'elle repart. Et j'ai fini cette route donc en passant par l'Inde, l'Afghanistan, le Cachemire, enfin l'Iran, même la Bretagne, sur les traces de ses aventures à la voile. J'ai fini la route donc à Chandolin. Chandolin, c'est son village où elle est morte, donc en 1997, il y a 20 ans, comme vous le disiez,
dans le
Valais suisse, on est en face du Cervin. On peut s'imaginer qu'elle s'embêtait. Donc j'ai retrouvé la femme qui s'était occupée d'elle jusqu'au dernier moment, qui a encore quelques écrits d'ailleurs, qui s'appelle Anne, quelques écrits d'Ella Maïa, et elle disait, oui, effectivement, elle tournait en rond, elle était dans son chalet qui était magnifique, on voyait ses sommets de 3000, 4000 mètres juste devant, y compris la frontière italienne, mais évidemment, elle avait, elle, Ella Maïa, dans ses yeux bleus de l'époque, le reflet des mers, des steppes, des cieux, d'Asie centrale, et d'ailleurs, elle avait envie de voyager. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de mouvement comme ça qui lui permettait sans doute d'oublier certaines carences, parce que en même temps, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de foi dans l'humanité, qui était positive. On a bien compris qu'elle était modeste, on a bien compris qu'elle pratiquait, elle le dit elle-même, une sorte, non pas d'autocentration, mais d'égoïsme, je pense à moi. Mais en même temps, par ses livres, elle a pensé aux autres. Et ça fait du bien quand on voyage et quand on la lit.
Et c'est une documentariste hors pair, parce qu'elle évoquait tout à l'heure dans le document La jeunesse russe, comment s'appelle son livre ?
Oui, Parmi la jeunesse russe,
c'est ça. Oui, et puis après, elle part en voyage dans le Caucase, elle ira au Kyrgyzstan, et alors justement, elle est passionnée par la manière dont ce régime, qui est encore nouveau, mais qui commence à donner tous les signes des abus du stalinisme, comment il impacte la vie des gens. Et elle documente ça de très près, elle questionne les gens.
Oui,
et elle est une des premières à tirer la sonnette d'alarme. Elle rencontre des déportés en disant, mais attention, voilà ce qui se passe de l'autre côté.
Voilà. Et celle où c'est très fort, parce qu'elle dit, bah oui, on me critique parce que je n'ai pas fait d'analyse géopolitique, et cela dit, je suis resté 6 mois sans visa. Et c'est vrai que quand elle voit la jeunesse russe et les moins jeunes des Russes, elle dénonce quelque part, parce qu'elle la rapporte, elle fait un travail de reporter. D'ailleurs, c'est grâce, ça a été dit dans son interview, à ces quelques piges, comme on dit dans le métier, qu'elle peut rester là-bas et faire son livre avec ses 150 dollars. Et donc, et d'ailleurs, c'est un don d'ailleurs de qui, tenez-vous bien, la veuve de Jack London. Jack London est mort, lui, non pas il y a 20 ans, mais il y a 100 ans et quelques, en novembre 1916. Sa femme, Charmian, qui était le grand amour de sa vie, est mort bien longtemps après. Et Charmian London a donné donc de l'argent à Ella Maïa pour faire ce voyage. Donc voilà, et donc elle rapporte, et donc quelque part, en décrivant la jeunesse russe et ses détails de vie quotidienne, comme le faisait Albert Londres, par exemple, quelques temps avant, elle dénonce aussi. Donc voilà, c'est un travail d'écrivain là aussi. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre le travail de reportage et le travail de l'écriture.
Le regard d'un bébé qui s'ouvre à la vie, après ce que m'ont dit les sages, est une chose bouleversante. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu ce regard qui vient vraiment de l'absolu, parce que l'enfant n'a pas encore d'ego. Il n'a pas encore compris qu'il est quelque chose de séparé du cosmos. Et puis après, on lui dit, tu es un enfant, et tu t'appelles comme ça, faut pas dire il. Et les sages m'ont fait comprendre ce que c'est que le regard, la lumière de perception, le seul inchangeant chez vous et chez moi. Et cette lumière de perception, on peut l'appeler le Saint-Esprit, le mot est galvaudé à mon avis, mais c'est la chose qui est la base de tout, et je n'ai pas eu de bébé pour jouir de ce regard absolu avant que l'ego soit fabriqué.
Voilà cette vie que la Maillard décrit sans attache, hein, je la cite, et qui est pourtant une vie passionnante. Olivier Weber, donc, vous avez suivi la trace d'Ella Maillard pas à pas dans cette biographie « Je suis de nulle part » qui reparaît chez Payot. Alors, avant d'entendre la voix d'Ella, on avait commencé à évoquer Jack London, et je voudrais dire un mot du travail considérable que vous faites autour des écrivains voyageurs. Vous en êtes vous-même un. Et vous relayez cette famille d'écrivains voyageurs. Vous êtes le président du prix Kessel, dont on va donner d'ailleurs le résultat, puisqu'il vient d'être décerné, hein, à quelqu'un qui connaît formidablement la Haute-Asie aussi, Jean-Pierre Perrin. Perrin, voilà. Voilà, c'est tout frais, c'est tout chaud. Mm-hmm. C'est déjà officiel ?
Oui, c'est officiel, là, depuis une heure. On peut y aller.
Alors, parlons justement de... Puisque nous sommes ici à Saint-Malo, c'est la Mecque des écrivains voyageurs. Qu'est-ce qu'un écrivain voyageur, finalement, dit de plus qu'un géopoliticien ? Est-ce que, là encore, ultérieurement, on parlera avec Russell Banks, il y a quand même cette question du terrain, du reportage, être présent, parce que vous ne trouvez pas qu'en ce moment on parle beaucoup de l'état du monde comme ça, de manière un peu abstraite, on navigue sur internet, on a des grands propos géopolitiques, mais le terrain, c'est-à-dire grand reportage et écriture du voyage, c'est capital
absolument, puisqu'on se rend compte bien sûr que le roman, enfin, ou la littérature en général, sont de plus en plus importants pour comprendre l'état du monde, où est-ce que nous allons en tant qu'individus et en tant que collectif, en tant que membre de cette humanité, en constant renouvellement, en étant cynique par rapport aux guerres, mais aussi malheureusement qui détruit son propre nid. L'homme est quand même la seule espèce animale qui détruit son environnement, donc son nid, etc. Et là, évidemment, ce n'est pas reproductif. Je crois que, évidemment, on a besoin de la littérature pour comprendre du long cours, du long terme, etc. Parce que, regardez, la crise est subprime en 2008. On a cru qu'on était totalement informés, surinformés. C'est pas vrai. Nous avons été sous-informés sur plein de choses, sur les équations de la macroéconomie, sur le blanchiment de l'argent, sur les flux financiers, les transactions. Même les grandes instances telles que l'ONU ont été totalement débordées par cela. Et je crois que le roman nous permet aussi de comprendre les grands mouvements du monde, les tendances, la mondialisation. Et puis, surtout, de colporter, de rapporter, comme vous disiez tout à l'heure, et de transmettre. Moi, je crois, enfin, je n'écris que pour ça, c'est pour transmettre. Moi, j'ai eu une enfance, j'ai commencé à être berger très jeune dans mon adolescence, j'ai pu faire des études, c'est un miracle, c'est une somme de miracles. Je suis un enfant de la République, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, et parce que dans les bibliothèques de mes villages, je me suis cogné à des planches, et de ces planches sont tombées, de ce rayon, de ces étagères, des livres qui s'appellent Don Quichotte, Le Rouge et le Noir, etc., ou Götz von Berlichingen de Goethe, et j'ai appris à lire très jeune comme cela dans mes montagnes. Et j'ai envie de transmettre, on m'a transmis, j'ai envie de transmettre, et je suis très ému quand je suis à Lima, au Pérou, à Cape Town, dans des ghettos sud-africains, ou à Kaboul, ou à Calcutta, de voir des jeunes qui lisent dans leur langue ou dans d'autres langues, parce que je me dis, c'est gagné, et voilà, il y a une transmission, et je pense qu'Ella Maillard, quand elle a regretté, là, quelque part, de ne pas avoir d'enfants, eh bien, ses enfants, ce sont des livres. Et nos amis, ce sont les livres. C'est un pays magnifique et sans frontières.
Merci Olivier Weber. On va vous lire et on va relire encore et encore Ella Maillard, parce qu'il y a toute une brochette de livres qui vient de reparaître chez Payot. Il y a la puissance des images aussi. J'ai découvert tout à l'heure, ici même au Festival Étonnant Voyageurs, une magnifique expo qu'il faut absolument voir. Photo de Johann Rousselot. Ça se passe en Inde. L'exposition s'appelle Now Delhi. Et comprendre le monde, c'est aussi les images. Merci Olivier.
Merci à vous. Merci.
Voilà, Olivier Weber, trop modeste, puisque lui-même vient d'avoir appris le prix du livre européen et méditerranéen. Bravo Olivier Weber.
Merci. Merci beaucoup.
Voilà, fin de ce Tout un monde au Festival Étonnant Voyageurs qui se poursuit jusqu'à lundi à Saint-Malo, à la prise de son Alexandre Martin et le diroyer Gilles Manet, chargé de production Roland Dandalex, dans une réalisation de Vanessa Nadjar. Sur France Culture, où vous avez rendez-vous maintenant à Paris avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.